Pour Polysécur, épisode spécial Non-Attaque, je suis avec Philippe. Peux-tu te présenter?
Oui, mon nom c'est Philippe Pépas-Petitclerc. Je suis principalement en ce moment un chercheur académique à l'UQAM. Je finis mon doctorat cette année probablement. Autrement, j'ai fait un bout de pentest avant. Je pars une compagnie de pentest aussi. Puis, comment ça, gros joueur de CTF.
Oui, puis ça a causé quelques soucis d'ailleurs pour l'enregistrement, le fait que tu sois un énorme joueur de CTF. Mais bref, on va peut-être y revenir à la fin de ce point-là. Tu es venu présenter au NordSec des techniques d'évasion d'antivirus. Je trouve ça super intéressant. Puis pour mettre la table, pour commencer la conversation, est-ce que tu peux décrire la portée? Puis, parce que moi, j'aurais mon réflexe, c'est de dire un antivirus, c'est un EDR. Et tu avais déjà bien cadré la portée de ta recherche. Fait que j'aimerais que tu commences par ça justement pour bien mettre la table.
D'accord. Peut-être les deux éléments peut-être de cadrage qui sont pertinents, c'est le premier, la modernité fait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'EDR, on ne parle pas vraiment d'antivirus. Notre point de vue, c'est, dans le fond, l'antivirus a été mergé dans le concept d'EDR. L'EDR, c'est en fait, pour nous, un antivirus et des capacités additionnelles qui servent à donner de la télémétrie, de la vision et la capacité de réponse au Blue Team, d'où le « end response ». Puis l'autre chose qu'on a faite du point de vue de notre étude pour essayer de être capable de faire quelque chose qui était constructif initialement, vu que c'est une première recherche dans ce domaine-là, c'est de scope out les trucs qui étaient statistiques au début. Donc, on est allé avec tout ce qui était des moteurs certains. Donc si on cherche un hash, par exemple, dans un fichier, c'est certain. Donc on est allé avec cette idée-là en premier avant d'aller réinclure les modèles statistiques pour voir s'ils fit le modèle aussi.
OK. Fait que tu as commencé ça sur la portée, puis ça, c'est clair. Fait que là, on n'est pas dans un modèle genre behavior magique de EDR. À partir de là, comment tu as procédé justement pour évaluer les différents moteurs que tu as testés justement pour commencer à faire la cartographie de ces stratégies-là?
OK. Fait que, évidemment, au début, on a commencé à chercher un paquet d'informations sur... qu'est-ce qu'il y a, comment c'est construit un antivirus, puis sur quoi ça repose. Il y a beaucoup de trade secrets là-dedans, puis ça, c'est des choses qu'on essaie d'éviter du point de vue de la recherche académique, parce que d'un, je ne peux pas le citer, fait que tout ce que je vais dire ne tient pas. Fait qu'on essaie de trouver c'est quoi les éléments qui sont communs, puis sur lesquels on peut se dire, OK, ben, on va prendre un AV générique. Ce n'en est pas un en particulier, c'est un AV générique. Puis là, je veux penser à un plan pour être capable d'évader n'importe quel AV en disant je sais pas c'est lequel, mais je veux un plan qui s'applique à n'importe lequel je vais avoir devant moi. Puis c'est ça, de là, on a commencé à explorer un petit peu, puis on est arrivé rapidement sur le concept de capacité de détection. C'est ce qu'on a appelé ultimement une analyse plus une raison ou une façon de regarder. Fait que je fais souvent la comparaison avec les signatures. Les signatures, c'est comme le terme qu'on connaît généralement. Donc les signatures, c'est qu'est-ce qu'on cherche, l'item qu'on cherche. Pour moi, la capacité, c'est comment on le cherche. Donc, de quelle façon je regarde le programme que j'analyse, puis où dans le programme que j'analyse, je regarde. Donc, je donne des exemples. Hacher un fichier, puis comparer le hash, c'est une capacité. La signature, c'est le hash lui-même. Si j'en prends un autre, par exemple, être capable de regarder les comportements, entre gros guillemets, que certains AV font. Ultimement, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent s'ils reconnaissent des séquences d'appels de fonctions. Puis regarder des séquences d'appels de fonctions, puis être capable de les comparer à quelque chose, ça, c'est une capacité. La séquence d'appels qu'ils cherchent, ça serait la signature.
Et donc, tu as plusieurs capacités que tu essaies de chercher justement pour être capable de justement généraliser un peu l'approche d'évasion que tu veux faire. Comment ça se processe justement? C'est un de la sélection des capacités ou l'inventaire des capacités, parce que la façon dont tu le nommes, tu sais, moi j'ai une idée très vaste, très floue dans le fond, qu'est-ce que c'est avec les capacités d'un antivirus. La signature sur les fichiers liés, ça c'est la plus classique, mais ils font aussi beaucoup d'autres actions qui leur permettent de justement d'aller être un peu plus efficace que juste de vérifier les signatures qui sont assez faciles à évaluer par ailleurs.
L'inventaire de base est quand même pas simple à construire. On a regardé un mix de deux choses. Donc, on a essayé de regarder c'est quoi la recherche en technique de détection est relativement remplie. On peut regarder qu'est-ce que le monde propose comme technique de détection. Ce qu'on n'a pas comme information, c'est lesquels ont été réellement adoptés dans des modèles d'antivirus. Fait qu'on peut quand même se baser sur les idées générales des papiers qui ont été publiés pour construire un inventaire potentiel. Puis, une chose qui est intéressante, c'est de regarder aussi la publication sur des techniques d'évasion, même si ce n'est pas des publications sérieuses. Qu'est-ce que le monde font in the wild comme évasion? Parce qu'il y a une raison qu'ils le font, ça doit avoir un effet. Fait, en regardant ça, on se dit, ça nous informe un petit peu sur qu'est-ce qui était populaire pour vrai puis qu'est-ce qui était adopté pour vrai comme idée de détection.
Oui, à partir de là, de toutes ces recherches-là, quelles sont les capacités qui t'ont intéressé dans ta recherche, le mappage et donc partiellement probablement une partie de tes résultats?
Je suis allé avec les plus classiques, ceux qu'on entend quand même bien parler, c'est juste que la viande de la recherche, c'était surtout de trouver comment les identifier, qui était intéressant. Mais dans le fond, ce que j'ai fait, c'est une classification relativement proche de l'analyse de programmes classiques. Où est-ce que j'ai pris l'inventaire des capacités de détection qu'on pouvait voir un petit peu sur les idées de détecter des choses que les gens disaient, puis je les ai classifiées sur le même pattern que tu classifierais n'importe quelle analyse de programme. Puis ça me permet d'avoir une certaine cartographie, puis vu que c'est par classifié, on se retrouve à avoir une espèce d'arborescence de techniques. Parce que tu en as une petite liste qui sont dans quelque chose, qui sont dans une autre classe, qui sont dans une autre classe. On est capable de commencer à faire de la recherche pour couper des branches de l'arbre, puis éventuellement arriver à « Ah, j'ai identifié celle-là. » On peut repartir d'en haut.
C'est intéressant de le remonter comme ça. C'est pas sans rappeler le MITRE ATT&CK aussi, un peu comme façon de l'aborder. C'est très intéressant. Et justement, ça ressemble à quoi, justement, cette cartographie-là, puis de capacité et de sous-capacité de ce que je peux en comprendre?
À gros grains, les deux grandes catégories, c'est les mêmes qu'en analyse. Fait qu'on aurait des analyses qui sont plus statiques. Après ça, on a des analyses qui sont plus dynamiques. Dans les statiques, il n'y a pas énormément de façons différentes de regarder un fichier sur disque sans jamais l'exécuter. Fait qu'on a les classiques, les hashes. Ce que moi, j'ai mergé ensemble, qui est ultimement les regards, mais c'est regarder pour des séquences ou des séquences avec des trous d'octets dans un fichier. Regarder partiellement un fichier. Après ça, il y a toutes les analyses statiques qui permettent de reconstruire un petit peu d'informations sur la sémantique du programme, genre reconstruire un CFG, puis mapper le CFG à quelque chose. Différentes analyses très bêtes, des strings, des trucs comme ça. C'est con, mais ils l'ont. T'sais. C'est pas que c'est... dans le fond, c'est une analyse qui est tellement cheap que si cette analyse-là peut t'aider à détecter quelque chose, t'es mieux de l'avoir. De ce côté-là, le statique, ce qu'on se rend compte qui est plus fréquent, c'est les analyses cheap qui ont des résultats. Mais ils sont très faciles à évader, généralement, ceux-là, parce que c'est facile de changer l'apparence d'un fichier. De l'autre côté, dans ce qui est dynamique, on va souvent splitter ça en deux catégories, ce qui est virtuel puis ce qui est concret. Donc, on va avoir les analyses qui vont se passer à l'exécution, mais dans un faux système. Après ça, les analyses qui vont se passer à l'exécution, mais sur le vrai système. Fait que c'est là qu'on va trouver comme les sandbox, qu'on va trouver l'émulation, qu'on va trouver... En fait, on peut trouver des fois des analyses qui sont dans les deux, mais on peut les voir à différentes places puis se rendre compte que lui, il fait aux deux places. L'autre à côté, il fait juste à une place. Ça peut être intéressant à regarder aussi. Des choses là-dedans, justement, tracer des appels de fonctions, c'est un classique. Ils vont réappliquer des détections statiques à des moments clés. Donc, vu que, mettons, évaluer la mémoire, c'est quelque chose qui est ultra coûteux, ils ont besoin d'un truc pour se dire quand est-ce que c'est un bon moment pour garder dans mémoire si je reconnais le programme statiquement. Fait qu'ils vont tracer des fonctions, voir une fonction particulière, puis dire « Oh, à ce call-là, c'est probablement une bonne place pour checker. » Fait que ça leur permet de checker moins souvent, mais de quand même regarder pertinemment. Pas d'autre qu'on trouve. Les hookings de fonctions, donc littéralement profiler puis ramasser de l'information ou empêcher comme d'appeler telle fonction avec tel paramètre, suivi de telle fonction avec tel paramètre, on va le bloquer littéralement. Ce genre de choses-là, ça se voit aussi. Il y a une façon de chatouiller l'antivirus de la bonne façon pour que tu te rendes compte que cette capacité-là est là. Ça, je pense que ça fait un peu le tour.
C'est intéressant, justement, c'est cette façon de catégoriser, là, comme tu le mentionnes, puis un peu aussi tout l'aspect sur lequel tu as insisté sur le fait qu'il essaie d'économiser autant que possible l'usage des ressources. Donc, il y a toujours un effort d'économie qui est inhérent à la sélection de la capacité qui est faite et comment cette capacité-là est implantée réellement dans ça. Maintenant que ces catégories-là sont faites, là, tu as pris des vrais antivirus et là, tu t'es amusé par rapport à ce genre de capacité-là à les tester. Ça ressemble à quoi, ce genre de test-là?
Ça, c'est une contribution qu'on a appelé ça du probing, fait que du sondage en français, qui, dans le fond, nous, on a décidé de dire qu'est-ce qui arrive si je prends un programme, je regarde, il est détecté comment. Je modifie ce programme-là, puis je reteste une deuxième fois. Maintenant, est-ce que la différence entre les deux détections, si c'est la même ou si elle est différente, est-ce que je peux tirer de l'information de là? Puis, dans le fond, on s'est rendu compte que si on est clever sur le choix de la transformation qu'on fait entre les deux, on est capable d'aller sortir de l'information qui est vraiment pertinente. Fait que, on s'est rendu compte que il peut se passer deux choses. Si tu pars avec un programme qui n'est pas détecté, les deux choses qui peuvent se passer quand tu le modifies, c'est qu'il reste pas détecté ou il devient détecté. Ça donne de l'information. Parce que ta transformation a fait quelque chose qui l'a amené à être détecté ou qui a rien fait. Donc ça peut être pertinent. De l'autre côté, si tu pars avec quelque chose qui est détecté, il peut se passer trois choses en fait. Il peut devenir non détecté. Il peut être encore détecté avec la même détection. Ou il peut être détecté, mais avec une nouvelle détection. Parce que des AV, ça dit pas juste vilain, pas vilain. Ça dit pas vilain ou un identifiant. Puis les identifiants, on peut les distinguer un de l'autre. Fait que de cette idée-là, on est capable d'extraire un petit peu plus d'informations avec le fait que ça dit plus que vilain, pas vilain.
C'est intéressant, justement, cette classification-là. Puis pas en recherche, parce que je suis pas dans cet univers-là, mais plus dans la réalité terrain, la façon que les moteurs détectent, puis justement, cette classification-là qu'ils donnent après est particulière. Et généralement, ils vont sur des grandes familles qui vont aller et non sur des éléments très spécifiques, de mon expérience terrain. À partir de ces hypothèses-là, l'itération qui a été faite ressemble à quoi? Puis justement, comment tu as réussi à définir des balises et comment tu as réussi à trouver les places où les antivirus sont aveugles essentiellement?
La façon qu'on a fait ça, c'est qu'on a... on a mis sur un tableau les capacités de détection puis on a dit faut les outplay. On s'est juste assis puis on a figuré quelle ruse qu'on peut faire qui va juste jouer sur la limite puis voir qu'il se passe quelque chose. Dans le fond, on veut juste créer une différence de comportement entre deux cas. Puis après ça, c'est d'être capable que de... Si ça, on a réussi à avoir une différence de comportement, est-ce qu'on est capable de vraiment remonter la chaîne puis s'assurer qu'on a isolé la bonne chose? Fait que des fois, c'est en ajoutant des préconditions à ce qui rentre au début du petit algorithme de sondage. Des fois, c'est d'en enchaîner plusieurs. Ça informe un petit peu plus. Mais si, mettons, je prends des exemples, je peux prendre les H parce que c'est un classique que tout le monde connaît, tout le monde peut relate, je sais pas. Comparer des H, c'est regarder le fichier au complet. Ça veut dire que si je sais pertinemment qu'une détection particulière sur un fichier que je scanne, on sait qu'elle est détectée statiquement d'une certaine façon. Je peux modifier un byte dans ce fichier-là, n'importe quel. Je fais juste essayer de ne pas avoir d'effet sur le comportement du programme. Fait qu'un exemple, je rajoute un 0 à la fin. C'est assez bête, mais le hash ne match plus. Fait que si je teste avant, teste après, puis que la détection est la même, je viens de conclure que cette détection-là n'était pas basée sur un hash. Dans les deux autres cas, elle l'était. Parce que les détections statiques sont assez simples. Tu vérifies si c'est une Yara, si c'est pas une Yara, tu tombes dans pas mal d'autres cas à peu près, à toutes les fois. C'est assez facile de faire des exclusions sur les deux, trois cas, puis après ça, le reste, c'est des haches. Du point de vue statique, c'est ça qui va se passer. Du point de vue dynamique, ça peut être peut-être un peu plus intéressant. Un exemple, c'est que tu identifies que quelque chose n'est pas détecté statiquement. Okay, il va être détecté dynamiquement. Là, une chose que tu peux faire, c'est utiliser un packer ou ce qu'on appelle des crypteurs aujourd'hui. L'idée, c'est que tu chiffres ton payload ou le fichier initial, puis tu le déchiffres juste à l'exécution. Ça fait que quand tu le regardes, il n'y a aucun des bytes initiales qui sont présents, puis les bytes que tu détectais peuvent juste apparaître si tu exécutes. Ça fait que ce que tu peux faire, c'est chercher une situation où tu as quelque chose qui est détecté en tant que détection 1. tu le packs, puis tu le refais scanner. Puis s'il est encore détecté en tant que détection 1, donc la même paquet que pas paquet, tu sais qu'il se fait exécuter dans un sandbox. Puis tu es capable d'extraire le fait que, OK, cet AV-là a un sandbox, puis il l'utilise.
C'est intéressant justement d'explorer ça comme ça. Puis là, c'est l'aspect moi qui m'intéresse encore un peu plus, cette façon-là de, puis d'un point de vue pure analyse des produits, du fait que tu as le contexte marketing, puis les capacités réelles du produit sont généralement pas à la même place. Et ça sert notamment à découvrir ça par effet collatéral, d'arriver à détecter ce type de choses-là, justement, voir si les comportements sont ceux qui sont attendus, justement, parce qu'ils vont. Qui va avoir l'enchaînement en question. Et puis justement, parce que ce cas spécifique-là me chatouille, est-ce que dans les tests que tu as faits, est-ce que tu as vu des différences entre les différents moteurs que tu as testés? Il y en a qui l'ont détecté ou que donc il y avait un sandbox effectif. Et est-ce qu'il y en avait d'autres qui n'avaient pas de sandbox justement effectif?
Ouais, OK. Généralement, les trucs à très gros grains comme ça, est-ce qu'il y a une sandbox? Ils vont tous l'avoir. On va tous être capable de trouver un cas témoin qui nous prouve qu'un sandbox qui est utilisé parfois. Ce qui peut être plus drôle, c'est que des fois, tu roules un bench au complet, tu te rends compte que cet AV-là, il détecte presque rien via son sandbox. Puis lui, à côté, il détecte beaucoup de choses via son sandbox. Donc, des fois, c'est juste le point de vue de marketing de dire on a cette capacité-là, on a du sandboxing, on a du ce qu'ils appellent du behavior ultimement, c'est regarder des signatures sur des traces. Regarder en fait l'ampleur de l'utilisation, ce qui veut dire ultimement c'est la banque de signatures associée à cette feature-là. Des fois, ils vont dire on a la feature. C'est vrai, la feature est là, mais la banque de signatures est tellement mince dedans que ultimement, elle trigger jamais ou elle trigger presque jamais. Même s'il est présent. Je ne suis pas prêt à dire qu'un antivirus dit on a ça puis ils l'ont pas. Souvent, c'est qu'il n'est juste pas utilisé ou pas leverage comme il devrait.
Mais c'est intéressant. Je trouve ça super intéressant parce qu'on voit que les philosophies d'implantation des composants dans les antivirus vont varier d'une compagnie à l'autre et justement pour des gains différents. Puis probablement, comme tu le mentionnes aussi, comme certains sont plus habiles avec une technologie qu'avec l'autre, vont mettre plus d'énergie. Donc, ils vont avoir des détections beaucoup plus grandes. Même si les deux le détectent, le chemin de détection n'est pas le même parce qu'il y en a un qui est spécialisé avec les sandbox, l'autre est spécialisé d'une autre façon. Et incidemment, ils vont capitaliser sur leur connaissance plus forte. Et à ce moment-là, ça place des choses comme ça. Si on recule pour la recherche, parce que la recherche est toujours très intéressante. Puis c'est un univers que je trouve très intéressant parce que c'est beaucoup plus rigoureux que ce qu'on fait normalement sur le terrain. Quand t'arrives dans des contextes comme ça, donc tu as été capable de mapper, ben, lui, tu es capable de savoir que le moteur A utilise plus du sandboxing, le moteur B l'utilise moins. Comment tu répliques ça dans tes recherches, même si dans les deux cas, ils ont détecté le changement d'un bit ou ils ont utilisé le packer, puis le packer est détecté des deux côtés, mais pas de la même façon. Comment ça tu le répercutes dans tes recherches?
La façon qu'on a proposé une méthode qui est utile pour l'évasion, c'est qu'on a... en fait, une fois que tu détectes la présence, en fait, moi, je cherche la présence ou l'absence, la capacité, en me disant, si l'AV est capable, la bonne chose à faire pour moi, c'est de le blinder. Fait que si je suis capable de rendre chacune de ses capacités aveugle à ce que je fais, il va avoir de la misère à me voir. C'est ça l'idée. Fait que dans le fond, moi, si je fais juste regarder, ça existe-tu? Oui, non. Si ça existe, je devrais l'évader.
Mais c'est la façon d'évasion qui va être différente, tout dépendant du type de moteur sur lequel a été attrapé le changement. Disons, si on prend le cas du packer. Si un A détecte ton code dans le packer par le sandbox, puis le B le fait d'une autre façon, est-ce que ça a un impact sur ton regard d'évasion?
On dirait que non. Mon point de vue, c'est de dire, OK, il y a un sandbox, lui, il y a un unpacker. Moi, je fais juste noter, celui-là a un unpacker, celui-là a un sandbox. Puis dans ma routine d'évasion, je dis, OK, c'est quoi les techniques d'évasion reconnues qui mappent directement sur un unpacker? C'est quoi les techniques d'évasion reconnues qui mappent directement sur un sandbox? Puis ça, la littérature est assez claire, lesquelles mappent sur quoi. Fait que tu fais juste construire un set ou un ensemble de techniques d'évasion qui couvrent tout ce que tu as trouvé dans l'AV. Dès que tu couvres tout, il est comme aveugle.
OK. Puis à ce moment-là, puis là, tu en as comparé plusieurs. Est-ce que ces ensembles d'évasion-là sont les mêmes? Parce que ce que tu pensais, tu as un objectif d'universalité dans ta recherche. Donc, de trouver qu'est-ce qui va être une évasion pour tout.
Je ne cherche pas une évasion pour tout. Je cherche une façon de savoir qu'est-ce qu'il faut que tu fasses quand tu veux évader. Fait que ce que je voulais construire, c'était ultimement un genre de flowchart où ce que tu fais ces choses-là, maintenant tu sais ce que tu dois faire, puis tu sais ce que tu ne dois pas faire. Exemple, tu sais qu'il faut que tu appliques telle technique d'évasion, puis tu sais que si tu appliques telle autre technique d'évasion qui n'est pas dans ce que tu as détecté en termes de capacité de l'AV, tu es juste en train d'ajouter du code qui risque de te faire pogner. Fait que tu es mieux de ne pas le faire.
Ouais, ben c'est ça, il y a un aspect minimaliste dans ce que dans la recherche, on a le juste assez pour justement éviter de s'accrocher sur une autre méthode de détection, une autre capacité de détection en complexifiant la technique d'évasion. À partir de ça, comment t'as répertorié, t'as tout fait? À quoi ça ressemble les résultats de ces tests-là? À quoi ça ressemble ce qui en sort de ça?
Fait que là, en ce moment où on en est, c'est on a le truc, on a la preuve que ça marchouille bien. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de vraiment faire des tests approfondis, de rouler toutes les benches sur tous les moteurs auxquels on a accès, puis après ça, de regarder la grosse donnée. C'est là qu'on en est. Fait que là, je pourrais pas te répondre à cette question-là tout de suite. La réponse sera dans ma thèse.
Ben, c'est intéressant, oui. Ben c'est ça. Donc, tu es rendu à l'étape où ton protocole de recherche il est stable, défini, tu l'as testé, ish, puis là, tu es prêt à lancer l'ensemble de tes cas d'essai que tu as montés, synthétiques, qui servent justement à arriver aux résultats finaux de ta recherche.
Yeah, très exactement.
Très intéressant. Ça va sûrement éveiller la conscience des gens sur tout ça. On va basculer parce qu'on a le temps de le faire. Puis justement, la difficulté de trouver l'endroit a été complexe parce qu'initialement, on m'avait mis dans le QG. Et la première journée, c'est mal parce que dans le QG, il y a tous les éléments du CTF qui sont présents. Donc, on a fait des pirouettes pour réussir à enregistrer dans une autre zone. Et de là, le fait que justement, tu n'as pas le droit d'aller dans le QG parce que tu as des éléments parce que tu es un participant au CTF et quand même, tu te débrouilles très bien. Là.
Ben, on a une équipe qui est très compétitive à NordSec. J'ai pas le compte au bout des doigts, mais dans les peut-être 10 dernières années, je pense qu'on n'a pas une seule fois pas fait le podium. Donc, on se débrouille bien, surtout à NordSec. On a une équipe assez stable qu'on essaye à devenir plus comme une communauté des gens qui font beaucoup de CTF à Montréal. Donc, on essaie de monter une équipe qui serait capable de qualifier au DEF CON. On a passé proche l'année passée. C'était une année d'essai. Essayer de voir qu'est-ce que ça pouvait faire. Je pense qu'on a fini à 6 places de qualifier pour les finales de DEF CON. Malheureusement, cette année, ils nous ont mis le CTF de qualification de DEF CON la semaine prochaine. Ça va être difficile de motiver tout le monde.
Ouais, ben avec l'énergie et tout le fait d'avoir passé ça pendant le NordSec, c'est un peu embêtant. Et comment, disons, cette équipe-là qui est montée, puis ça fait, disons, une dizaine d'années, donc pré-confinement d'ailleurs, que vous œuvrez ensemble, qu'est-ce qui vous distingue comme équipe et justement en quoi vous permet de vous qualifier ou potentiellement vous qualifier pour le DEF CON?
On en fait beaucoup. On pratique énormément de CTF dans l'année. Bon, c'est sûr que là, on vieillit. Il y a des familles qui se créent. Ça rend les choses plus difficiles. Fait que peut-être qu'on a baissé à peu près de moitié en termes de participation à des CTF génériques en ligne. Mais on en fait encore beaucoup. Pas mal de meet-up entre nous pour partager de la connaissance, tester des challenges. Quand quelqu'un trouve de quoi de cool, parce que là, maintenant, tout le monde est rendu des professionnels. Fait que quand quelqu'un trouve de quoi de cool dans un pentest, il nous montre un challenge qui fait la même affaire, puis il nous déploie ça, puis il dit « Bon, pétez-vous les dents là-dessus. » Il y a beaucoup de partage de connaissances à l'intérieur de l'équipe. Ton autre question, c'était qu'est-ce qui nous distingue comme équipe?
OK. Puis justement, pour permettre de vous qualifier jusqu'au DEF CON, parce que c'est quand même un feat qui est quand même intéressant, parce qu'il y a quand même une limite physique au DEF CON, et il y a des qualifs, comme tu le mentionnais, qui sont des étapes de filtrage préalable pour vous aider à vous rendre.
On n'est pas qualifié encore, mais pas loin. Un jour, on va y arriver, je suis pas mal sûr. Une des choses qui nous rend souvent un petit peu plus efficace que d'autres, c'est notre propension à sortir de la boîte. On a vraiment tendance à chercher la solution weird. Nordsec, c'est une compétition qu'on approche du cœur, fait que on la connaît bien. Puis on connaît les organisateurs. Puis des fois aussi, on tombe sur des challenges, on dit ah, on prend dessus, on trouve la solution, on envoie une. On dit on prend-tu 3 minutes de plus pour voir s'il n'y en a pas un autre. Puis là, on regarde, puis on trouve un bypass qui fait qu'on fait un challenge qui est supposé prendre 6 heures en 30 minutes. Puis c'était pas prévu, puis nous, c'est notre bonbon. T'sais, c'est ça qui nous fait vraiment plaisir, c'est ça qu'on cherche. Puis souvent, ça donne le edge. Ça...
Oui, puis là, on est à l'ère de l'intelligence artificielle, on peut pas passer à côté de ça. Ça a un effet. Ça a un effet sur la conception des challenges, ça a un effet aussi sur les équipes. Comment cela a été intégré dans vos pratiques de participation des CTF?
Bon, il y a une couple de points à ça. C'est le gros point de cette année. Hein. Emilio, dans le pas loin de Noël, je crois, a fait un announcement de Nordsec pour dire cette année à Nordsec, il n'y aura pas de réglementation concernant l'AI. C'est une année d'études. On va voir qu'est-ce qui se passe, mais on corrigera l'année prochaine si ça ne marche pas. De notre point de vue, on est du monde qu'on a appris pendant une dizaine d'années à faire ce qu'on fait en se pétant les dents sur tous les challenges qu'on trouvait. Et là, quand on tombe sur une affaire comme l'AI, ça nous pue un peu au nez. À toutes les fois qu'on... T'sais, on se dit qu'on devrait l'utiliser, mais notre impression, c'est qu'à toutes les fois qu'on l'utilise, on se tire dans le pied nous-mêmes pour plus tard. Parce que la fois que le défi va être plus dur puis pas solvable par l'AI, je ne l'aurai pas pratiqué ou je ne l'aurai pas appris suffisamment. Puis là, je vais être pris. Fait qu'on s'est toujours comme tenu loin. Puis là, à cause de l'annoncement de cette année, on s'est dit, bon, ben, il faut se touler. Fait que dans les 2 derniers mois, tous mes collègues se sont mis à vérifier comment ça marche, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut monter des affaires. On a investigué différentes stratégies de prompting puis de comment on harness ces patentes-là, qu'est-ce qui vaut la peine comme harness dans un contexte de CTF selon le type de challenge, est-ce que des choses sont mieux ou pas mieux. Puis pour des gens qui viennent un peu de l'académique, c'est bizarre. Pour nous, c'est quasiment tout dans le bruit. On met énormément d'efforts pour savoir qu'est-ce qui est mieux comme stratégie de harnessing. Puis ultimement, tous les efforts qu'on peut faire dans un sens ou dans l'autre ont moins d'impact que de rouler le modèle 2 fois. Avec ça, on est tout le temps comme, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'sais, c'est quoi les décisions qu'on est supposé prendre autour de ça? On est juste, ben, on le roule 2 fois.
Oui, c'est ça, c'est mystérieux parce que puis ce que tu fais écho et mon propre regard sur l'intelligence artificielle au niveau professionnel ou le fait de le faire donc, comme un sportif finalement, de le faire soi-même est plus avantageux quand on arrive en compétition que d'arriver en compétition connaissant pas les techniques, connaissant pas les choses, en espérant qu'on ait un avantage caché sur les autres en faisant ça de cette façon-là. Mais j'ai le même approche. Puis dans le fond, l'exploration que je fais aussi est un peu comme ce que vous mentionnez au niveau professionnel. Chercher où il y a des gains réels, puis finalement, tu arrives, puis il n'y en a pas tant que ça. Des zones qui ont des gains réels à ça, il y en a, mais ils sont pas tant. Puis des fois, c'est le temps où le gain est perdu dans le temps que tu dois te chamailler avec le prompting, parce que des fois, quand il part dans la lune, t'as perdu essentiellement ton temps à prompter et le temps qui génère la réponse associée.
Oui, ce qu'on réalise, c'est pas qu'il n'y a pas... le harnessing a l'air de contribuer correctement à aider le modèle, pas à avoir ou non la réponse, mais le moment où la fois qu'il a la réponse, il va être plus direct. Il va se rendre plus vite, moins de jetons. Versus moins harnessé, moins de tools, il va se rendre aussi. On s'est rendu compte à peu près le même nombre de fois sur 10. Mais la fois qu'il l'a, c'est plus slow, prend plus de détours, il s'en va moins directement au but. Mais ce qui a le plus d'impact, c'est la température. Ou ce que si tu le rejoues 3, 4, 5, 6, 10 fois, t'as c'est ça qui a de l'effet. C'est de le rejouer un paquet de fois.
Donc, c'est d'aller. C'est intéressant. Puis, parce que je suis en train de le voir aussi dans toute la saga Mythos, notamment, qui vont sur l'idée d'un modèle super puissant qui est capable d'attaquer. Quand, dans les faits, puis ce que j'ai vu à côté, puis je commence à voir apparaître, c'est que tu es mieux d'utiliser des plus petits modèles, mais avec une chaleur plus élevée. Donc, une hallucination beaucoup plus grande dans la mesure où tu es capable de faire un sens de ce qui sort. Parce qu'à travers l'imagination, là, lancez-moi pas des tomates parce qu'il n'y a pas vraiment d'imagination, mais sa capacité d'hallucination va faire sortir des choses qu'on n'aurait pas pensées naturellement ou dans un délai raisonnable par rapport à la situation dans laquelle on est.
Oui, je suis pas un gros expert de LLM. Je t'écho les expériences de mes collègues et ce qu'ils me partagent. Mais oui, ce qu'on a vu, c'est souvent les modèles plus forts avec beaucoup de tooling, beaucoup de harnessing, ont tendance à avoir besoin d'être lancés plus de fois parce qu'ils se creusent des trous à eux-mêmes. C'est un peu niaiseux, mais ce qu'on remarque, c'est des affaires comme si tu lui donnes un outil, disons un outil GDB pour aller débugger quelque chose, le fait que tu lui donnes l'outil, tu l'influences parce que tu mets l'outil dans le contexte. Fait que là, ça devient dans la tête d'un modèle statistique. Maintenant, GDB a du poids. Fait que là, il a tendance à vouloir utiliser l'outil parce que tu lui as fourni, quand dans le fond, c'est peut-être pas nécessaire selon le challenge que tu as. Puis, pire que ça, c'est qu'une fois qu'il utilise un outil, l'output de cet outil-là se fait refider dans le contexte. Fait que tu pollues encore plus le poids de cette affaire-là. Fait qu'ils se creusent leur propre trou en s'en allant dans un chemin qui a souvent pas rapport. Fait que c'est pour ça qu'on a notre impression, c'est faut que tu le partes un paquet de fois, puis espérer que le trou qu'il creuse, ça soit le bon. Puis lequel trou il va choisir est complètement aléatoire, c'est la température qui va décider ça.
C'est intéressant tout ça, puis ça revient au fait que l'importance de l'humain dans le processus, dans l'usage, et dans le cas d'une équipe qui est très expérimentée comme la vôtre, ça va avoir un effet, oui, mais probablement marginal sur l'ensemble. Je vais être curieux de voir qu'est-ce qui va sortir des conclusions de ce CTF cette année, justement pour voir si ça va avoir eu un effet réel ou négligeable ou ça va tout dépendant de ce que ça va faire. Là.
J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner à NordSec. NordSec, c'est un CTF bizarre, on va se le dire. Mais si je regarde les CTF des quelques derniers mois qu'on faisait en ligne, ça a un effet majeur, puis c'est parfois déprimant. Nous, on a sauvegardé des challenges de NordSec des dernières années, des trucs qui m'ont pris 12 heures, exploitation binaire dans le heap avec des affaires vraiment compliquées. C'est 25 minutes, un LLM qui spin, puis c'est fait. Puis, en moyenne, je pense qu'on a réussi en pratique dans les dernières semaines à faire 95% des challenges qu'on y a mis dessus. Aussi, on a trouvé toutes les plus difficiles des dernières années de NordSec qu'on a pu sauvegarder. On le fit dedans, puis il réussit pas mal tout. En termes de « es-tu capable? » Oui. Ensuite, est-ce que ça va avoir une influence sur le score? J'ai hâte de savoir. L'autre question, c'est est-ce que ça va avoir une influence sur le fun? Ça, à date, énormément. Dans les CTF qu'on a fait en préparation, genre juste avant Noël, des choses comme ça, il n'y a pas grand-chose de plus plate que de travailler sur un challenge. T'es rendu à mi-chemin, puis ton collègue, il l'a réussi avec un LLM. C'est vraiment poche.
Oui, ça enlève le plaisir, puis ça nous rappelle aussi que les CTF, c'est un endroit où on a du plaisir. Puis je vais peut-être te tenter quelque chose, puis tu vas voir comme tu me diras ce que tu en penses. Puis parce que c'est une hypothèse que j'ai avec Mythos notamment, c'est que ces modèles-là vont être bons pour trouver certains types de choses que l'humain a plus de difficultés. Donc, essentiellement, les challenges sont conçus à l'heure actuelle pour des humains. Donc, les chemins qui sont utilisés sont faits pour brouiller l'humain et que, de toute apparence, ne brouille pas le LLM dans ce cas-ci. Et quand on voit dans la recherche de vulnérabilité, le LLM trouve des choses que les humains n'auraient probablement jamais trouvées ou qui sont très complexes. Mais le LM n'est pas capable de trouver des choses qui sont simples ou d'un autre pattern. Donc, ce qui est mon hypothèse face à ça, c'est qu'on arriverait probablement à des CTF qui sont autorisés avec du LLM, puis d'autres qui ne seraient pas autorisés, qui seraient justement qui rajouteraient la couche de complexité par-dessus le fait qu'ils viendraient brouiller le LLM par rapport à ça. Là.
J'ai aucune idée comment ça va être réussi. Je suis convaincu que l'humain est assez intelligent pour trouver une façon de maintenir les CTF vivants au travers de plein de modèles qui réussissent à faire à peu près n'importe quoi. Mais ça va prendre le temps. Je pense qu'à un moment donné, il faut laisser la chance aux coureurs de figurer quelque chose. Justement, les organisateurs de DEF CON, qui sont probablement les flagships qui s'en vont guider c'est quoi le futur de CTF pour les prochaines années, c'est une équipe qui est excessivement compétente. C'est la plus grande équipe de CTF de tous les temps qui a pris DEF CON pour les 5 prochaines années. J'ai confiance en ce qu'ils vont essayer de figurer pour... ils savent que c'est la grosse bête à vaincre, puis je les truste. Fait que ça, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Dans les prochaines années, je pense qu'on va avoir beaucoup plus d'outils pour faire en sorte que le CTF reste l'endroit ludique, pédagogique qu'on voulait que ça soit.
Cool, ben on va voir ce que ça va donner. Merci énormément de ce partage-là, autant pour la recherche que tu es venu présenter que tout le volet CTF dans lequel clairement tu es un passionné de ça, puis tu vas chercher le plaisir. Fait que merci énormément de ce partage-là.
Ça fait plaisir, merci de l'invitation.